Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous sommes encore dans le temps de Noël, et il est bon que nous méditions sur Jésus-Christ et sur la religion que Jésus-Christ nous apporte. Il y a eu dans le monde quatre grandes religions, mais une seule est la vraie. C'est très surprenant lorsque saint Thomas d'Aquin prêche au peuple de Naples, donc des prédications populaires pour tout le monde. Il leur fait tout un exposé sur les fausses conceptions du Christ, sur les hérésies par rapport au Christ, et sur toutes ces fausses religions. Il y a deux raisons pour lesquelles je vais vous donner cet enseignement sur les fausses religions et sur la véritable religion apportée par le Christ. La première, c'est que nous baignons dans les erreurs. Nous ne nous en rendons pas compte. Mais même nous, traditionalistes, a fortiori ceux qui m'écoutent et qui découvrent, nous ne nous rendons pas compte à quel point nous avons naturellement une notion faussée de Dieu. La deuxième raison, c'est que la lumière se voit mieux lorsqu'on la met sur un fond noir que sur un fond blanc. Et je veux vous montrer la lumière du Christ, et pour cela, il faut que je vous montre le contraste avec les fausses religions. Première religion, la religion naturelle. En réalité, elle n'a jamais existé parce que l'homme n'a jamais été à l'état naturel. Dieu aurait pu le créer sans l'appeler à la vie de la Sainte Trinité, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Et si je vous parle de cette religion, c'est parce qu'on voudrait nous faire croire que la religion des païens est légitime puisqu'elle ne serait rien d'autre que cette religion naturelle. On voudrait même nous faire croire que la religion des francs-maçons n'est pas très éloignée de cette religion naturelle. Eh bien non, si l'homme avait été mis sur la terre sans être appelé au paradis éternel, à contempler la Sainte Trinité, malgré tout il n'aurait pas inventé une religion, il n'aurait pas inventé son rapport avec Dieu. Il aurait bien vu que Dieu est le Créateur, qu'il faut l'honorer comme tel. Il aurait bien vu que Dieu est Providence et qu'il faut suivre cette Providence. Il aurait bien vu que l'homme, étant une petite créature, ne peut avoir pour mission que de mettre en valeur son Père, celui qui l'a créé, qui est grand, qui est infini. Je n'en dis pas plus sur cette religion, parce qu'elle n'a jamais existé, elle n'existera jamais, mais je vous en ai dit quand même deux mots pour que vous n'alliez pas croire que toutes les inventions modernes des hommes seraient quand même un peu légitimes, parce que ce serait la religion naturelle de l'homme. La deuxième grande catégorie des religions, ce sont toutes les idolâtries. Il n'y a pas à nous étendre dessus. Je pense quand même que les choses sont assez claires. Et je passe directement à la troisième grande religion, qui est celle de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, qui est complice du démon, et qui n'a pour objet que d'amener les âmes au démon. Je ne dis pas que tous les francs-maçons sont conscients d'amener des âmes au démon. Je dis que la franc-maçonnerie a été faite pour cela. Et la franc-maçonnerie connaît son ennemi. Le premier ennemi, le tout premier ennemi de la franc-maçonnerie, c'est le Christ-Roi. Le Christ-Roi, parce que Jésus-Christ règne. Et donc il y a une opposition, une haine de la franc-maçonnerie envers Jésus-Christ. celui qui vient de naître dans la crèche. Rappelez-vous bien cela. La franc-maçonnerie n'est absolument pas ce qu'elle prétend être. Elle est la haine du Christ roi, faite dogme, faite religion. Seulement voilà, les hommes naturellement sont religieux. Dieu a créé les hommes de la même manière qu'un homme naturellement respecte son père, il le respecte plus ou moins, il va désobéir plus ou moins. N'empêche que pour tout homme, son père est autre chose qu'un étranger. Sa mère est autre chose qu'une étrangère. Et donc la franc-maçonnerie va faire un ersatz de religion qui va, d'une part, faire croire aux hommes qu'ils sont religieux et surtout, qui va permettre de favoriser ses buts à elle et qui va plaire aux hommes qui ainsi vont d'autant plus facilement suivre la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que cette religion franc-maçonne ? C'est une invention pseudo-philosophique dans laquelle on cherche à découvrir le sens profond des choses, mais dans laquelle les francs-maçons font très attention qu'on n'aboutisse jamais à la véritable réalité. C'est une religion naturaliste qui refuse le surnaturel. Or, la raison de l'homme bien conduite, le Concile Vatican I l'a rappelé parce que c'est important, la raison de l'homme bien conduite mène à la connaissance authentique de Dieu créateur, je vous l'ai fait dans suffisamment de sermons, de Dieu infini, de Dieu bon, de Dieu providence. Bien sûr, cela ne permet pas de savoir que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais lorsque le Christ parle de la part de Dieu, Dieu, on le connaît, et donc volontiers on écoute le Christ. La religion franc-maçonne, ce n'est pas cela. C'est une religion qui prétend faire entrer dans un monde spirituel, mais en occultant, en bouchant toutes les portes qui pourraient mener à la Sainte Trinité et au Christ. Finalement, cette religion est une religion égoïste, c'est une religion qui favorise les passions de l'homme. Or, vous savez ce que c'est, mes bien chers frères, de favoriser les passions de l'homme, c'est le vice. Cette fausse religion est fondée sur le vice. Le vice de l'orgueil, mais comme on n'arrive pas directement à ce vice suprême, alors on passe par le vice de la cupidité et puis celui de la vaine gloire. Cette religion a envahi l'Église avec le modernisme. Le modernisme n'est pas une autre religion que celle de la franc-maçonnerie, acceptée par les hommes d'Église, repeinte aux couleurs du christianisme avec la fausse charité, qui en réalité n'est pas de la charité mais de l'œcuménisme. Sous prétexte de charité, il faudrait tout admettre, toutes les erreurs, tous les vices, en supposant que les hommes vont comprendre petit à petit. Mais les hommes ne comprennent pas si on ne leur dit pas la vérité. Saint Pie X a dénoncé le modernisme dans son encyclique Pachandi. Il a dénoncé les erreurs, d'une part, et ces erreurs ne sont rien d'autre qu'une reprise de la fausse religion franc-maçonne, et il a dénoncé le vice. Il les accuse principalement, et ça on l'oublie trop souvent, parce que, comme saint Augustin dit qu'il faut dénoncer l'erreur et aimer le pécheur, on traduit « il faut dénoncer l'erreur et non pas le pécheur ». Saint Augustin ne dit pas qu'il ne faut pas dénoncer le pécheur, il dit qu'il faut l'aimer, ce n'est pas pareil. Et comment aime-t-on un pécheur ? en le sortant du péché? Comment aime-t-on un noyé en le sortant de la rivière? Et si le noyé ne veut pas sortir de la rivière, s'il vous prend pour un agresseur parce qu'il ne voit pas que vous êtes en train de le sauver, malgré tout, vous faites tout votre possible pour le sauver. Le pape Benoît XVI vient de mourir. Son livre « Lumière du monde » n'est rien d'autre qu'une peinture maladroitement chrétienne de la religion franc-maçonne. Quant à ses livres sur les principes de la théologie catholique, par exemple, c'est vraiment une déclaration ouverte contre la tradition, c'est-à-dire contre la révélation. Le Christ, pour les modernistes, n'est pas venu donner un enseignement, il est venu enseigner aux hommes à se faire eux-mêmes leur religion. C'est ce qu'on retrouve dans les méthodes d'éducation moderne, dans lesquelles le maître n'enseigne pas aux enfants la vérité, mais enseigne aux enfants, soi-disant, prétendument, à trouver la vérité. Non, pas à trouver la vérité, parce que si on disait « trouver la vérité », encore on fait référence à quelque chose qu'on doit trouver. Non, à épanouir leur personnalité, indépendamment de toute vérité. Et donc la seule vraie religion, c'est celle de Jésus-Christ, qui est le Verbe de Dieu et qui nous parle de la Sainte Trinité. Vous me direz, mais je n'ai pas parlé du judaïsme. Or pourtant, c'est quand même une religion importante. Et non, vous n'avez pas un judaïsme, mais deux judaïsmes. Vous avez le judaïsme de l'Ancien Testament, et tout en référence à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le chantons dans les cantiques de Noël. Il a été annoncé par les prophètes depuis plus de 4000 ans. Abraham a vu le jour du Christ, notre Seigneur le dit lui-même dans l'Évangile. Joseph est la figure de Jésus-Christ, et puis David, qui avec ses psaumes, nous a décrit la passion de Jésus-Christ, nous a décrit l'Église, nous a décrit le triomphe de la pauvreté du Christ, le triomphe de la croix. La vérité de Dieu, Jésus-Christ qui apporte la lumière, non pas la lumière des francs-maçons, une lumière vague et indéfinissable qui n'a pour seul objet que de ne pas parler de Jésus-Christ. Non, la lumière de la vérité, et cette vérité, c'est le Verbe. Le Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui s'est fait chair, qui est au milieu de nous, de manière à ce que nous l'entendions, que nous le voyions, et que nous entendions lorsqu'il nous parle de la Sainte Trinité, de son Père et du Saint-Esprit, et de lui qui est Dieu. Alors pour finir avec le judaïsme, les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas les continuateurs des Juifs de l'Ancien Testament. Ils sont leurs opposants radicaux. Ils nient le Christ là où les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient le Christ. Ils nient la chrétienté qu'ils veulent leur remplacer par une sorte de fausse civilisation à eux, là où les prophètes chantaient constamment la gloire du règne de Jésus-Christ, c'est-à-dire la chrétienté, l'Église. C'est le catéchisme du Concile de Trente qui nous le dit. Il n'y a pas quelque chose dont les prophètes dans l'Ancien Testament aient plus parlé, qu'ils aient plus annoncé que l'Église. Le vrai règne de Jésus-Christ règne de paix, mais de paix avec Dieu, c'est-à-dire de conversion des pécheurs. Règne du Christ roi. Le Christ n'est pas un prophète qui nous annoncerait quelque chose que nous avons encore à découvrir, et surtout pas quelque chose que nous découvririons par nous-mêmes. Le Christ n'est pas le surhomme des films américains, ni même le surhomme que décrit Jean-Paul II dans sa lettre sur le rosaire, une sorte de surhomme qui passe devant tous les hommes et qui les encourage à relever les défis, le défi de l'amour et même le défi du néant. c'est trop peu de nous dire que les fausses religions sont fausses parce qu'elles ne reconnaissent pas le Christ, ni même qu'elles sont fausses parce qu'elles ne reconnaissent pas que le Christ est le Fils de Dieu. Elles sont fausses parce qu'elles ne reconnaissent pas que le Christ, Verbe éternel de Dieu, nous parle de la Sainte Trinité et nous révèle la Sainte Trinité. Ce n'est pas pour rien que dans les lectures des matines de Noël, l'Église nous a fait lire et chanter au chœur devant tout le monde la condamnation d'Arius, qui voyait dans le Christ une sorte de surhomme. C'est parce que nous sommes en plein dedans aujourd'hui. Le Christ nous parle de la Sainte Trinité parce que aucun homme ne pourrait découvrir la Sainte Trinité tout seul, puisqu'elle est un mystère. Aucun homme ne peut se faire sa religion, parce que l'homme est une créature, il n'est pas le maître. Et puis parce que, si l'homme se faisait sa religion, il abaisserait la grandeur de Dieu à la petite compréhension de l'homme, tandis que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, élève la petitesse de l'homme à la grandeur de Dieu. Et ça, seul le Christ peut le faire. Saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il commente ses articles du Credo sur le Verbe fait chair, il dit « Si un homme avait un frère qui soit roi et dont il soit éloigné, il n'aurait de cesse de chercher à le rejoindre pour vivre avec lui. » Eh bien, le Verbe fait chair est notre roi. Dieu, la Sainte Trinité, nous l'a donné dans sa grande bonté comme frère. Il nous invite à le rejoindre, lui, notre frère, auprès de notre Père éternel. Non seulement il nous y invite parce qu'il nous révèle la Sainte Trinité, mais il nous donne les moyens de parvenir jusqu'à elle, et ça, ce sera l'objet d'un autre sermon une autre fois. Le Christ ne s'adresse pas à de braves hommes à qui il suffit de révéler la Trinité pour qu'ils courent sur la voie du salut. Il s'adresse à des pauvres pécheurs, à des créatures qui se sont révoltées, à qui il veut rendre leur dignité de frère du roi. Pour cela, il va nous conduire jusqu'au calvaire et jusqu'à la victoire du calvaire sur le démon, mais n'anticipons pas. Dieu a une méthode très pédagogique. Il ne nous dit pas tout d'un coup, il nous révèle tout d'abord la splendeur du but, la splendeur de ce à quoi nous sommes appelés. Et quand nous commencerons à nous lever pour marcher, que nous découvrirons que nous sommes de pauvres boiteux, alors il sera là pour nous soutenir, il nous aidera, il rectifiera nos pas, et il nous rendra la démarche droite, juste, digne, vraie, vertueuse des fils du roi. Il ôtera toute honte. Ainsi, mes bien chers frères, relisez le dernier évangile de la messe que normalement vous lisez à chaque messe, le prologue de Saint Jean, que l'Église nous a fait lire à la messe du jour. Et lorsque vous contemplez l'enfant Jésus dans la crèche, rappelez-vous qu'il est le Verbe éternel qui vous parle de son Père, du Saint-Esprit et de lui-même, deuxième personne de la Sainte Trinité, et demandez-lui, suppliez-le, de vous donner la connaissance de ce mystère, la fidélité à ce mystère, pas seulement la connaissance, mais la fidélité à ce mystère. C'est ce que vous contemplez dans le chapelet, et même le rosaire, et je ne saurais trop vous inviter à dire le chapelet tous les jours. Et petit à petit, rien qu'en contemplant le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie, vous entrerez dans le mystère de Dieu. Pour nous faciliter les choses, le bon Dieu a eu l'immense bonté que non seulement le Verbe se fasse chair, mais qu'il soit le Fils de la très sainte Vierge, et c'est pourquoi c'est à elle qu'il faut demander qu'elle vous fasse entrer dans ce mystère de son Fils qu'elle a si bien connu, si bien compris, si bien pénétré, son Fils qu'elle aime plus que toutes les autres créatures, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.